Découvrez Chante Merle et l'histoire de sa télécabine.
Dernier jour, ce jeudi 23 avril de 10h à midi, pour profiter d'une vue exceptionnelle. Participer à la rencontre avec un village ancien s'organisant autour d'une rue principale et de ses nombreuses charrières. Place du Mait et hameau de l'Envers. Vous saurez tout de l'histoire du téléphérique du Dessert Chevalier et du domaine skiable. Rendez-vous sur la place du téléphérique, entrée principale du centre commercial Le Cerf d'Aigle, gratuit et pour tout public. Médiateur du patrimoine à l'Office du tourisme de Serre-Chevalier-Briançon, Renaud Philippe répond aux questions de Laura Giraud.
Renaud Philippe, vous êtes médiateur du patrimoine à l'Office du tourisme de Serre-Chevalier-Briançon. Bonjour.
Bonjour.
Et on va parler du ski.
On va parler du ski, surtout en parlant du village de Chante-Merle aussi, puisqu'on a de multiples petits villages sur l'ensemble de la vallée, tous avec des charmes complètement différents. Et je propose donc une découverte du village de Chante-Merle, où c'est vrai qu'on parle un petit peu plus du ski, puisque pour la vallée de la Guisane et pour la station de Serre-Chevalier, c'est aussi le berceau du ski. Et en plus de ça, Chante-Merle est un véritable laboratoire d'architecture de toutes les stations de ski du XXe siècle. On a toutes les décennies représentées. Donc c'est vraiment plutôt assez varié, assez intéressant comme visite, ce qui nous permet de remonter un petit peu le temps, puisque l'histoire du ski va commencer pour beaucoup dans le Briançonnais quand même. On voit d'ailleurs, grâce à ce qui se passe en Briançonnais, un développement populaire, on va en parler. Même si le ski, c'est vrai qu'il peut voir des essais de ski très tôt dans l'histoire, dès l'Antiquité, même avant dans l'Altaï, en France, ça va se développer vraiment fin 19e. On a des essais de ski d'un certain Henri Duhamel du côté de Champrousse, mais il les remise, ces skis, il ne trouve pas ça très pratique. Par contre, fin 19e, on va avoir un capitaine de l'armée, puisque les progrès sont apportés aussi par l'armée très souvent. Et c'est le cas pour le ski, et justement chez nous, donc le capitaine Clerc va se voir remettre une paire de skis, et le capitaine Clerc essaye le ski, il trouve ça pratique, il va réussir à décider son état-major pour faire une course opposant ski, raquette, montée, descente. C'est le ski qui va bien sûr gagner. Du coup, on va équiper un premier bataillon, et on verra même en 1902 la création d'une première école militaire de ski. Première école militaire de ski créée donc ici à Briançon au sein du 159e RIA. Donc on va lancer le ski à un petit peu plus grande échelle. On fabriquait aussi les skis, il y avait une fabrique de skis en même temps. Et c'est là qu'on voit un développement populaire puisque les militaires à l'époque sont essentiellement des gens de nos montagnes, les militaires Briançon. Par différentes allocutions, ils feront tout pour donner l'envie aux gens en tout cas de développer ce moyen de locomotion qui est assez évident en montagne. Et c'est ainsi qu'on va voir début 20e, bien le papa qui va faire des skis pour ses enfants ou des petites fabriques de skis se créer dans l'ensemble des montagnes globalement. Donc c'est là qu'on voit un développement finalement populaire du ski. En tout cas, on va voir un premier concours international de ski qui a failli avoir lieu sur le col du Lautaret. Et finalement, c'est le col du Mont-Genèvre qui sera choisi pour le mois de février 1907 où plus de 3000 skieurs de toute l'Europe viendront s'opposer pour un concours complet. Concours complet puisque la montée, la descente en slalom et puis également du saut à ski. Donc vraiment toute discipline confondue. 3000 skieurs, c'est important, c'est possible aussi puisque le train arrive à Briançon depuis 1884 et pareil côté italien, depuis quelques années on peut venir en train très proche. Donc voilà comment ça se fait au Mont-Genèvre en 1907. Ensuite on verra entre les années 7 et 14 différentes courses de ski, concours international de ski en alternance entre Chamonix et Briançon. Souvent Briançon, il y a d'ailleurs des images mémorables où on voit l'arrivée au pied de la chaussée. C'est un plaisir qu'on ne peut pas faire souvent quand même. L'année passée, il y a deux jeunes qui se sont amusés à faire une belle vidéo d'ailleurs, puisque la chaussée était fermée. Autrement, on ne peut jamais le faire. Et je crois que pour tous les Briançonnais, ça reste un rêve intéressant de descendre la chaussée en ski. En tout cas, le ski va se développer dans le Briançonnais petit à petit. Après la Seconde Guerre mondiale, Mont-Genèvre va se développer en tant que doyenne des stations de ski françaises. Et bien, tout autour, on voyait passer les gens qui allaient faire du ski l'hiver. Et on vivait, comme partout à cette époque-là dans le coin, plutôt d'une polyculture vivrière. On pourrait faire du ski. Et on n'en fait pas, c'est un petit peu dommage. En 1935, on verra un certain André Georges. Monsieur André Georges, il est secrétaire du club alpin français pour la section de Briançon et il a repéré un sommet dans la vallée de la Guisane duquel partent de multiples itinéraires ultra propices à la pratique du ski. Ce sommet, c'est bien sûr le sommet de Serre-Chevalier. Du coup, il va réussir à décider les trois communes ainsi que le conseil départemental, général à l'époque, on l'appelait, pour réaliser une étude permettant de faire monter un appareil de remontée mécanique au sommet de cette montagne. On étudie cinq tracés entre, on va dire, Pramorel et Chante-Merle. Et on va revenir au tracé le plus court, partant de Chantemerle, montant au sommet de Serre Chevalier avec une étape et un premier tronçon donc, au niveau de Serre Ratier. Cette construction est bien sûr la plus courte, la moins chère. Ces travaux vont donc commencer en 1938. 1938, c'est donc juste avant la guerre. Mais on sera au début jusqu'en 1942 en zone libre. Du coup, on pourra continuer ces travaux petit à petit, puisqu'ils ne se réalisent en montagne que l'été. Et on verra du coup différentes péripéties liées aussi à la guerre. Les travaux commencent en 1938 et du coup, eh bien, ça avance petit à petit. Le travail important, ça va être de mettre en place le câble sur lequel rouler les belles cabines rouges. Et ce câble va être stocké en hiver dans l'usine désaffectée de la Chape, où les militaires eh bien, vont lorgner un petit peu sur ce câble, puisqu'il permettrait de faire la même chose, permettant de monter armes et munitions au niveau des forts. Mais notre député de l'époque, un certain monsieur Maurice Petch, bien connu dans le Briançonnais, a tout simplement réquisitionné ce câble pour terminer cette construction. Il faudra d'ailleurs 80 hommes pour dérouler le câble sur le premier tronçon. Pas rien. Et ensuite, un cheval de trait sur le deuxième tronçon, puisque le premier tronçon permet déjà de limiter un petit peu les charges en faisant rouler le câble sur le premier câble tendu. Et les cabines, eh bien, il nous en reste encore en exemple, hein, sur en départ de piste de ski sur Monnetier, ou la plus connue, c'est sans doute au niveau du rond-point de Saint-Chaffré. Elle s'appelle d'ailleurs Marianne, puisque c'était Marianne Georges qui fut la marraine de cette cabine. Et ces cabines étaient construites en tôle aluminium. Il était prévu, d'ailleurs, que ces tôles aluminium soient créées du côté de Levallois-Perret. Donc c'est en région parisienne et en zone occupée. Il faut donc négocier avec les Allemands pour faire passer à ces tôles la ligne de démarcation. Bref, différentes péripéties permettant d'achever cet appareil. Alors l'appareil sera donc inauguré le 21 décembre 1941 sous le patronage d'un certain monsieur Vincent Berthelot, qui était alors secrétaire au transport et aux télécommunications sous le gouvernement de Vichy. Titre parisien imprimé à Vichy, d'ailleurs, résumera l'évolution de la situation. Il nous dit « Les gens les plus pauvres de France s'offrent la téléphérique la plus longue du monde ». Très peu de temps du monde, mais en tout cas la plus longue du monde à l'époque. Donc c'est l'évolution où on va passer d'une économie basée sur l'agriculture globalement, pas que, hein, il y avait aussi les mines, il y avait plein d'autres choses possibles dans le coin, vers le tourisme petit à petit. Pendant la guerre, ce sont des skieurs allemands et italiens qui skieront, et au sortir de la guerre, eh bien on pourra de nouveau faire du ski à Serre Chevalier. On verra donc un développement du ski aussi sur le reste de la vallée, avec un téléski au Besse en 1947, ainsi qu'un autre monnetier, le téléski du Charvet. Également, eh bien, pour accueillir tout le monde, on verra la construction d'un hôtel, c'est le Grand Hôtel de Serre Chevalier qui va être construit en 1951-52. Même s'il y avait déjà deux autres hôtels dans Chantemerle avant, l'hôtel du Clos et l'hôtel du Yeti juste en face, puis aussi plus tard l'hôtel Edelweiss, donc voilà, le ski commence à se développer ainsi. Le projet d'ailleurs était intéressant, prévoyait la construction de trois chalets hôtels en bas au départ, avec les chalets abritant des boutiques et puis une grande patinoire qui ne sera pas forcément réalisée à cette époque-là, un peu plus tard. À Ratier était prévu la construction de deux chalets hôtels, un seul sera construit, c'est le chalet hôtel qui existe toujours. Là-haut devait y avoir aussi une patinoire, mais également un chalet abritant, s'il vous plaît, des boutiques de luxe, qui ne verra jamais le jour non plus. Le ski donc se développera petit à petit, hein, jusqu'à nos jours, avec une petite péripétie quand même pour ce téléphérique. Hein. C'est un incendie qui va ruiner l'hiver 84-85, avec l'incendie de la gare intermédiaire de Ratier lié à un court-circuit. Et donc cet appareil sans cesse a été remis aux normes, remis en état après les différentes péripéties. Et du coup, on n'a plus que le deuxième tronçon qui fonctionne actuellement. Ce premier tronçon est remplacé par un télécabine, le télécabine Ratier, qui permet un débit beaucoup plus important et faire monter beaucoup plus de piétons, justement, aussi à Ratier. Voilà donc l'histoire du ski développée donc historiquement sur Serre Chevalier.
Merci beaucoup.